sur Spéculateur Audemars pour ce podcast consacré à la pensée de Michel Menu. Michel Menu, ancien résistant durant la Seconde Guerre mondiale, devient commissaire national éclaireur des Scouts de France de 1947 à 1956. Il fut alors l'instigateur de la proposition Raider Scout et des patrouilles libres. Lors de la réforme pionnier Rangers, lancée en 1964, il organisa un groupe de réflexion pédagogique appelé Réflexion de Scoutmestre. Ce groupe édite une revue à destination des chefs scouts de France souhaitant continuer à utiliser la méthode des patrouilles. En 1970, voyant les négociations avec les scouts de France échouer, il se lance dans la création des raids GOUM pour les jeunes adultes. Ce podcast reprend une partie de l'interview de Michel Menu par un groupe de raiders scouts d'Europe enregistré en décembre 2005 à Saint-Cloud, 10 ans avant son décès survenu en 2015. Le son a été retravaillé pour en améliorer l'écoute.
Ce qui avait fait la particularité des raiders, c'était deux choses. La première, c'est vrai. C'est la première fois que vous lancez des gars de 15 ans, tout seul avec la boussole, pendant 36 heures. 36 heures, sans parler à personne, avec la boussole. Moi, j'avais ma troupe, j'avais fondé une troupe, là, dans les quatre bâtiments, vous voyez. Et j'avais une troupe de 35 scouts. On partait dans la forêt noire en Allemagne, et on les dit, ta boussole, ça va, 36 heures tout droit. Les gens, ils sont fous, ces types-là. Mais les types revenaient, on les connaît encore tous, ces raiders d'il y a 50 ans. Parce que c'est quelque chose qui était, donc il y avait le raid qui définissait les raiders. Et deuxièmement, il y avait l'engagement de service. Les raiders se définissaient par un programme sur le plan santé. Il y avait des sports qui étaient un peu particuliers aux raiders. On faisait du judo. Relisez le livre de Baden-Powell, Scouting for Boys. À la première page, il fait du judo. Quand la troupe ici revenait en kimono, tout le monde les regardait, ça avait doublé les effectifs de la troupe. Hein. Donc, il y avait un sport. Il y avait, sur le plan missionnaire, sur le plan chrétien, sur le plan formation religieuse, le contact avec un prêtre pendant un certain nombre de mois. Et en 6 mois, il faut que tous les mois, tu ailles voir l'aumônier de ta troupe, et tu, sur le temps du jeu, voilà, j'ai telle difficulté, ou je ne comprends pas telle chose. Il fallait donc qu'il y ait une formation religieuse approfondie. Après ça, il y avait les services. Il fallait faire un entraînement avec les pompiers, ou avec c'est surtout avec les pompiers, ça avait beaucoup marché. Il y avait aussi à Nantes, Bordeaux, Cherbourg et tout ça, entraînement avec les sauveteurs marins. Et le brevet de service n'était plus donné par le chef de troupe. Il était donné par les pompiers ou par la fédération de sauvetage. Donc, l'entraînement que recevaient les raiders était un entraînement valable pas seulement à l'intérieur de la troupe ou à l'intérieur des patrouilles, mais valable à l'extérieur. Et donc, voilà, si tu veux. Alors, aujourd'hui, c'est plus difficile, je souscris. Je suis d'accord avec vous. Parce que la société actuelle, il faut tout prévoir. Il y a un coup de vent là-bas dans le département 92. Alerte, je sais pas quoi, jaune, le truc, c'est la panique, l'apocalypse. Il y a un type qui... Il y a eu une histoire qui était très typique de la mentalité actuelle. Il y a eu, il y a, je ne sais pas combien, 15 ans peut-être, non, peut-être même pas 10 ans, un type qui faisait du vélo, il tombe, il se tue. Bon. Dans l'année qui a suivi, on a vendu 1 million de casques. Maintenant, tu montes en vélo, tu n'as pas ton casque, ou en moto, je ne sais pas où, tu es foutu en moto, je comprends. En vélo, tout le monde a des casques, ils ont des... Ils vont avoir des gilets pare-balles, bien sûr.
Voilà, oui.
Donc, vous êtes dans une période où, soi-disant, l'État fait tout. L'État sur la sécurité, l'État sur... On ne peut plus allumer de feu dans beaucoup d'endroits.
Ah oui, ça c'est vrai.
Il faudrait trouver des services qui veulent faire des raideurs, qui aient un petit peu d'air à leur intérêt. C'est sûr qu'il faudrait trouver des services. Il y en a. Vous voulez que je vous en donne d'autres exemples?
Allez-y.
Eh bien, vous allez camper en Ukraine.
En Ukraine?
Vous allez camper dans les pays où il n'y a pas eu de scoutisme pendant 20, 30 ou 50 ans. Et là, forcément, les gens qui vous voient, ils ont envie de le faire après. Vous allez camper même en Roumanie, c'est plus près. Vous allez camper en Albanie, vous allez faire quelque chose dans un endroit où ceux qui vous regardent ont envie de faire ce que vous faites. Quand il y a eu les inondations en 1956, c'est dans le bouquin des raideurs, tout ça. Il y a eu une... le ministère de l'Éducation nationale a donné congé à tous les scouts, aux raideurs scouts, pour 8 jours. Par le ministère de l'Éducation nationale, pour qu'on aille avec les pompiers. Pendant 8 jours, il y a eu 1600 raideurs de Paris qui ont été dans les casernes de pompiers à circuler avec les bateaux. Donc, on était... pour ainsi dire, par le fait qu'on était scout et raideur, intégré au service public. Déjà, l'idée de fonder des patrouilles dans des villages où il n'y a rien du tout, c'est aussi une bonne idée. Alors, ça ne correspond pas tout à fait au service de la société. Quand on disait, on est avec les pompiers, et s'il y a une inondation, on y va, c'était vraiment un service d'intérêt national. La dimension chevaleresque, les chevaliers, ma mentalité, vous posez des questions, je vous réponds sur le coup. Les chevaliers, ça a vraiment été un très beau symbole dans une époque. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit un symbole qui puisse intéresser les garçons que je connais, des lycées ou des... C'est un petit peu un symbole d'une période. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un beau symbole. Le chevalier qui met à genoux pour recevoir son épée, c'est très beau. Alors, dans les 4 bâtiments que vous voyez là, il y avait 5-6 familles au bout d'un mois, et il y avait déjà une patrouille libre. Et puis, au bout d'un an, il y avait une trentaine de scouts là dans les 4 bâtiments. Moi, j'ai eu ma troupe là pendant 9 ans, j'étais chef de troupe de la troupe de Saint-Cloud. Alors, les gens de ces QG, ils aimaient pas trop ça. Ils disaient, oui, il est commissaire national, mais il est chef de troupe. Ah, oui, on n'acceptait jamais, nous, un commissaire qui ne soit pas chef de troupe. Alors, oui, on avait des manies hein, à l'époque. Oui, il fallait être dans la réalité ce qu'on enseignait aux autres. Je rends service à tous les mouvements scouts qui veulent un coup de main, même des gens qui sont, je sais pas le nom de mouvement. Ils disent, voilà, on va savoir ce que c'est que le scoutisme. Alors, je dis, 1, 2, 3, voilà ce que c'est que le scoutisme. Tel que je l'ai appris à Guilhouël. Moi, j'ai fait le camp international de Guilhouël, qui était un camp qui a été fondé par Baden-Powell, pour avoir le droit de faire des camps écoles dans les autres pays. Le seul qui avait le droit de faire un camp école dans ce pays devait être breveté, ce qu'on appelait un député camp chief. Il était délégué comme chef de camp par Baden-Powell. Donc on a appris le scoutisme là où il s'est fabriqué, si on peut dire, à Guilhouël. Et les gens me demandent quelque chose, le scoutisme tel que Baden-Powell l'enseignait, voilà, c'est ça. Alors maintenant, si vous voulez chanter votre chanson, vous le faites, mais c'est pas ça. Ma dernière action chez les raideurs, ça a été dans un camp qui s'appelait le camp de la Panne d'Ordange. Je l'ai évoqué. On a eu 820 patrouilles raideurs. Et, ah oui, on avait dit, de temps en temps, une fois tous les 4-5 ans, il faut se retrouver, ne serait-ce que pour 3 jours. Ce n'était pas un camp particulier, ils avaient tous fait des camps de troupes dans la région du Massif central ou en Savoie un peu. Et pendant 3 jours, on s'est retrouvés. Et ça, c'était un spectacle. Ça, c'est sûr, ça a été très encourageant. Il y a toujours des, comme dans le scouting, des critiques à faire. Quand on a commencé les radars, il y avait 32 000 scouts. Et la bande d'Ordanche, il y en avait 65 000. Donc, avec les radars, le scoutisme a pris une allure, une couleur, ils font des raids, des types qui, ça redonnait, ils s'entraînent avec les pompiers. C'est sûr que pour des gars de 15-16 ans, c'était très fortement attractif. Alors, des choses qu'on aurait pu peut-être faire mieux, peut-être faire plus attention à l'intermédiaire entre l'élite et puis la base. Il aurait peut-être fallu une étape un peu intermédiaire. Effectivement, on n'a peut-être pas pris assez conscience en l'ensemble des raideurs qu'il y avait une base qui était déjà un petit peu bourgeoisée, un petit peu pour la facilité.
Avant de repasser sur votre vie et après sur les gommes, juste, est-ce que vous pensez, vous connaissez un peu la route actuelle ?
Non.
Non.
Je suis allé 4-5 fois à Vézelay. Mm-hmm. Je trouve que c'est une très bonne idée de que les gens se rencontrent une fois par an, même, de temps en temps, ils se retrouvent, ils se laissent un peu mélanger, parce qu'il y a un peu des CP, il y a un peu des routiers, il y a un peu des chefs, etc. Mais je peux pas répondre en clair à cette question. La route, à l'heure actuelle, je suis pas dans le coup pour savoir ce qu'il faudrait faire, maintenant, avec les 18-19 ans.
Y a-t-il un lien entre le scoutisme et le boom?
À 100%. Et non, mais faut parler clair. Le scoutisme a commencé comment? Baden-Powell est arrivé à Londres, est arrivé à Manchester au moment où de la ruée des campagnes vers les villes, au moment de l'industrialisation. Et il a dit, ces jeunes adolescents qui n'ont pas de travail par l'instruction technique, etc., en ville, ils sont en train de crever, on va les mettre à la campagne. L'objectif numéro un du scoutisme, ça a été la nature. On va sortir les gens des villes et on va les mettre à nouveau en contact avec la nature. Bon, donc, et oui, c'est un réflexe simple. Tu mets une plante dans la bonne terre, elle fleurit, etc. Tu la mets dans le... Bon, où c'est maintenant l'évangile, hein, le semeur, la semée, le truc tombe dans les cailloux, ça ne pousse pas. Donc, ben voilà, la première réaction, c'est une réaction très intelligente, ils crèvent là, on les met dehors, dans la nature. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué depuis le début du scoutisme. La première troupe que j'ai fondée, moi, je n'avais qu'un garçon de ma troupe qui allait à l'école. Donc, on fait des études jusqu'à des 20, 22, 23, 25, 30 ans. Maintenant, la phase d'entrée dans la vie active est repoussée. Donc, on a affaire à des gens de 22, 23, 24 ans qui ont quand même toutes les forces de la vie active, mais qui, pour des raisons sociales, économiques ou culturelles, ne sont pas obligés. Donc, c'est un âge important. On va proposer aux 22, 30 ans quelque chose. Qu'est-ce qu'on va proposer? La nature. Comment on va le proposer? Avec des raids. Donc, vous avez tout compris, les goûts. Alors, les gommes, c'est donc pour des adultes, des jeunes adultes, disons. Mais alors, on a mis les gens dans un cadre un peu particulier, quelque peu de nature, mais le désert. C'est très important pour un red goom ne se fait pas n'importe où, ça se fait dans un lieu désert. On a fait des red goom dans les fins fonds de l'Espagne, on en a fait en Italie, on en fait dans les Causses, on en a fait en Syrie, il y a pas longtemps, on en fait au Maroc. Donc le cadre des Red Goom, c'est le désert. Non seulement sortir de la ville et de ses improprements, sortir du bruit. Donc c'est un âge où, au début de sa vie, on a besoin de silence pour savoir où on va. Donc, les Red Goom, c'est des raids dans le désert, d'une certaine manière, et c'est pas prendre plaisir avec le confort de la ville. Il n'y a pas un 4x4 qui nous suit pour le cas où il y a un gars qui se prend la cheville ou je sais pas ça. C'est pas des conférences sur la marche. 7 heures de marche par jour. Dans des lieux déserts. Avec un esprit de pauvreté. Donc, on fait, avant de partir, avant de s'engager dans la vie adulte, un temps de recueillement. Pas seulement de recueillement spirituel. très important. Le paiement complet. Parce que le spirituel, il marche que sur un corps. Donc il faut que le corps soit dérouillé aussi. Il faut que le mental, par le silence, soit réactivé. Donc on reprend, comme a fait Baden Powell, la personne entière, que je dis, du scoutisme, santé, caractère, sens des autres, sens de Dieu. C'est les buts du scoutisme, c'est pour répondre à ta question, on a les mêmes buts, parce que c'est des buts universels. Les jésuites avaient ces buts-là, il y a 500 ans, 450 ans. Donc, les goûts sont dans la dynamique du scoutisme, mais adaptés à la situation actuelle des 22-25 ans. C'est important, au début de sa vie, au début de sa vie active, on peut le faire une fois, deux fois, mais ce qui est important, c'est pas seulement d'avoir une vision spirituelle, la foi du chrétien, mais que la foi du chrétien soit portée par la personne tout entière. C'est-à-dire par un corps qui est assez entraîné pour dire « Oh, il y a ça à faire, moi je le fais. »
On n'aurait pas une sorte d'intérêt d'aller dans ces banlieues où on parle tellement de la misère qui traîne. Est-ce qu'on n'aurait pas une opportunité d'aller sortir justement tous ces jeunes et de les envoyer à la campagne avec nous?
C'est une vraie question. Je veux dire, c'est une très bonne question. Et si tu veux que je te réponde clairement, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Moi, quand le Père Donker m'a demandé d'aller donner un coup de main au scout, je ne connais rien du tout, et puis en plus de ça, je n'ai pas une vision. Alors j'ai pris un an, j'ai dit, moi j'avais un travail professionnel, j'avais mon boulot, mais j'ai trouvé le moyen, je me suis engagé pour aller travailler pendant 3 mois dans les mines. J'ai travaillé comme mineur avec les apprentis mineurs. Et quand tu as travaillé à Saint-Étienne sur Mini pendant 3 mois avec des gars 15 ans apprentis mineurs, au bout de 3 mois, tu dis, les mineurs, je ne vends pas, mais je connais. Je vois comment ils réagissent, je vois ce qu'ils font, je vois s'ils sont crevés, je vois le langage qu'ils parlent. Bon. Et après ça, j'ai été dans la série de Firmini passer quelques temps. Donc, il faut, pour bien répondre à ta question, c'est une vraie question. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Il y a, là, à portée de notre main, un terrain de mission. Je ne peux pas te dire ce que je ferais si j'avais votre âge. Mais je crois que je ferais quelque chose. C'est sûr que si le coutier veut un futur, il faut qu'il trouve de quoi mettre du vent dans ses voiles.